dois dire que quelques semaines avant mon arrestation, j'ai tenté de faire une statistique des arrestations que nous avions déjà subies. Et je savais déjà, avec la plus grande certitude, la façon dont avaient été trahis mes camarades du musée. Donc, dans cette période-là, je tente de faire une statistique sur les causes d'arrestation. Et cette statistique aboutit au fait que c'est à 60% la trahison. Et je dois dire, quelques jours après, j'ai été arrêté par un traître.
Que vous pouvez nommer ?
L'abbé Alèche.
Un prêtre. Et est-ce que même la pratique de la confession est entrée dans l'exercice de ses funestes fonctions ?
Il paraît que oui. C'est ce qu'on a dit à son procès.
Et procès qui s'est terminé comment ?
Ah, il a été fusillé. Et bien que je sois contre la peine de mort, j'avoue que je ne peux pas me lamenter sur la mort d'Alèche.
Moi non plus.
L'abbé Robert Alèche, le salaire du prêcheur. Maïlis Bessery, Yvon Croisier. Deuxième épisode, la part du diable.
Donc Michel Luteau, l'abbé Alèche a dénoncé le réseau de Germaine Tillion. Il a infiltré la résistance et dénoncé le réseau de Germaine Tillion.
Oui.
Il y a une page de votre ouvrage collectif Les Orphelins de la Varenne qui est consacrée à cela. Peut-être vous accepteriez de la lire. Témoignage de Germaine Tillion.
Mais écoutez, ce que je préférerais, ce serait que mon épouse la lise. Parce que moi, j'ai la vue qui baisse.
Vous voulez bien ? Madame, je vous donne. Merci.
Germaine Tillion nous raconte comment elle a été arrêtée. Alors, ma propre arrestation. Moi, j'ai été également vendue par un traître appointé qui était aussi un agent de l'Abwehr. Et cet agent de l'Abwehr était de son métier prêtre. Il était prêtre de la paroisse voisine de la nôtre, qui était la paroisse de la Varenne.
Emmanuel Béguet, vous avez écrit un roman sur Robert Alèche qui s'appelle L'archevêque de Cologne. Entre août et septembre, le réseau de Germaine Tillion perd une cinquantaine de membres. Que leur arrive-t-il ?
Ah ben, ils sont arrêtés les uns après les autres par les Allemands. Le réseau est entièrement démantelé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque, Alèche va voir Virginia Hall à Lyon. Et qu'il est totalement désolé de ce qui arrive. Il dit, oui, effectivement, tout le réseau est en train d'être démantelé. C'est terrible, il faut être très prudent. Alèche est désolé de ce qui arrive. Donc Germaine Tillion, elle a passé sa captivité à Ravensbrück. Donc Germaine Tillion, personnage extraordinaire, qui a été déporté à Ravensbrück et qui a trouvé le moyen d'écrire une opérette. Je trouve ça incroyable. Elle est donc, comme on imagine, dans des conditions de détention abominables. Elle n'a rien à manger, rien pour se vêtir, rien pour se couvrir, rien pour rien. Et elle fait du terrassement. C'est son travail. Et elle trouve le moyen, sans papier, dit crayon, d'écrire une opérette qui décrit ses conditions de détention. Je trouve ça incroyable. Bref. Donc, Germaine Tillion a passé sa captivité à se demander qui l'avait donnée, parce que c'était évident qu'elle n'avait pas été prise par hasard, qu'elle n'avait rien de... Voilà, il se promenait gare de Lyon, il n'y avait aucune raison de se faire arrêter. Donc elle avait forcément été dénoncée, mais elle n'en a jamais été sûre, et elle a passé la totalité de sa détention à se demander si c'était Alèche ou si c'était pas Alèche, et elle n'a jamais pu s'en convaincre. Elle trouvait que c'était possible, mais que c'était tellement incroyable que c'était sans doute pas ça.
Aurélien Prévost, qu'est-ce qu'on peut dire du souvenir qu'on a gardé de l'abbé Alèche avant les révélations du procès. Vous avez dit que c'était un caractère plutôt séduisant, en tout cas qu'il avait bonne presse auprès des paroissiens. On sait aussi qu'une religieuse l'a recommandé au réseau de Germaine Tillon, qu'elle s'est portée garante.
C'est à peu près ça qu'on sait, puisque ceux qui l'ont connu dans l'immédiat d'après-guerre l'ont justement oublié de leur mémoire en se disant qu'ils avaient quand même rencontré quelqu'un qui avait une double personnalité et qui avait une face certes brillante, mais qui ne pouvait pas faire occulter la face sombre de sa personnalité. Et donc ces gens-là, pour pouvoir avancer, et c'était d'ailleurs dans l'air du temps, ont rapidement, une fois son exécution en fait, oublié totalement, là pour le coup, oublié, parce que c'était un élément extrêmement pénible de leur histoire. Et donc, ils ne l'ont plus jamais évoqué, il a totalement disparu. C'est-à-dire que sur sa mort, le collabo, le nasillon saint-maurien, c'est Robert Allèche, et on n'en parle jamais. Il est difficile de glorifier un traître à la patrie, ça ne se fait pas en général. Donc les traîtres sont souvent oubliés, c'est aussi un moyen de les punir, leur souvenir disparaît. C'est une technique qui remonte très ancienne, puisque déjà dans l'Empire romain, on effaçait le nom des personnes qu'on souhaitait voir disparaître de tous les monuments publics. Quand une communauté, quelle qu'elle soit, que ce soit une communauté paroissiale, une communauté urbaine ou une nation est traversée par un drame comme celui-ci, une fois passé le temps de la justice, voire de la vengeance en certains cas, ce qui n'est pas le cas sur la paroisse, hein, bien sûr, eh bien, il s'agit de ressouder la communauté et de passer par oubli tout ce qui peut diviser.
De nombreux ouvrages sur la ville font mention malgré tout de cette histoire, notamment celui des orphelins de la Varenne. Qu'est-ce qu'on peut dire des révélations qui ont entraîné son procès, le procès de Robert Allèche ? C'est-à-dire que personne n'était au courant ici de ses activités. Il avait même quitté Saint-Maur pour s'installer à Paris. Et puis, en 48, il y a le procès de Robert Allèche et les révélations sur ses activités.
Difficile d'avoir, pour le coup, là je suis désolé de ne pas pouvoir répondre, parce que les témoignages de personnes manquent. Et la presse locale en fait petite mention, mais sans avoir le côté un petit peu voyeuriste qu'on pouvait avoir dans la presse d'avant-guerre.
Enfin, ça a dû quand même faire jaser dans une petite ville que d'apprendre qu'un vicaire qui a bonne réputation a en réalité amené des gens à la déportation.
On n'a pas de traces dans les archives communales, on n'a aucune trace. Et sur la paroisse, il n'en reste les témoins de l'époque ne sont plus là pour en parler.
D'accord. Emmanuel Béguet, vous avez écrit un roman sur Robert Allèche.
Oui, à la première personne, oui. Qui raconte donc sa vie à la première personne. J'ai découvert quand Germaine Tillon, l'anthropologue résistante, est entrée au Panthéon dans ses souvenirs. Et ce qu'elle dit d'assez remarquable, c'est que c'est une femme très engagée qui était entièrement opposée à la peine de mort. Et elle dit quelque part, je suis contre la peine de mort, mais pour le cas de Allèche, quand même, ça peut se comprendre. Donc je me suis dit, voilà quelqu'un d'intéressant, parce que s'il est capable de faire changer... Germaine Tillon d'avis sur la peine de mort, c'est qu'il doit y avoir un truc à creuser, donc j'ai creusé le personnage et voilà, donc c'est comme ça que j'ai entendu parler de cet homme.
Aurélien Prévost, qu'est-ce qu'on sait de Robert Allèche pendant la guerre ?
Bien, pendant la guerre et même avant, Robert Allèche était un vicaire qui était très apprécié des paroissiens parce qu'il était jeune, parce qu'il était sympathique. Cependant, ce vicaire n'était vicaire que de façade puisqu'il avait une double vie et en particulier une double vie à Paris. Les paroissiens ignoraient totalement que l'abbé Allèche collaborait très largement avec les nazis et donc il continuait à donner le sacrement de réconciliation, c'est-à-dire à entendre des confessions, ce qui lui permettait d'alimenter ses dénonciations. De même, ça on l'a su aussi après, il incitait les jeunes à entrer en résistance pour mieux les dénoncer par la suite.
À partir de 1942, donc Robert Allèche, il était prêtre à la Varenne, qui est à côté de Saint-Maur, à l'est de Paris. Il habitait un petit deux pièces sans intérêt. Et puis, fin 42, il s'est installé au 46 rue Spontini, dans un magnifique appartement de 8 ou 10 pièces principales. Et on est devant le 46 rue Spontigny où il a habité.
Dans ce quartier qui était déjà relativement cossu à l'époque.
Bien sûr, on n'est pas loin de l'avenue Foch, qu'on avait renommé l'avenue Bosch pendant la guerre, parce que beaucoup d'Allemands s'étaient installés dans les hôtels particuliers de l'avenue Foch. Il habite là à temps plein, mais il raconte aux uns que c'est chez sa sœur, aux autres que c'est chez ses parents. Enfin, il raconte beaucoup d'histoires à beaucoup de monde qui sont toutes différentes. Même les concierges ne savaient pas que c'était son appartement, ils croyaient que c'était l'appartement de sa sœur. Voilà. Et alors on a dit qu'il habitait avec ses deux maîtresses dans cet appartement. Je ne pense pas que ce soit vrai, parce qu'on n'a aucune trace du fait qu'il y ait deux maîtresses qui habitaient en même temps. Il y avait sa sœur à demeure, son père aussi, et probablement sa maîtresse principale qui était Renée, et la deuxième dont on sait moins de choses. Apparemment, d'après les dépositions, elle est plutôt restée habiter à la Varenne. Donc je ne pense pas que les deux maîtresses aient habité. On trouve que c'est un peu aigriard, un peu croustillant, mais en fait, je ne pense pas que les deux maîtresses aient habité en même temps dans l'appartement.
Donc il a quitté sa prêtrise, en tout cas son poste de vicaire.
Voilà, il est devenu prêtre indépendant. C'est marqué dans les dépositions, c'est l'abbé Morel qui dit. Il est devenu, à partir du 1er janvier 1943, il est devenu prêtre indépendant. Donc il n'était plus rattaché à la Varenne. Il vivait en civil et il menait ses activités en civil. Sauf quand il se déplaçait ou il utilisait son habit religieux, il prenait le train en soutane, mais sinon pour aller voir les gens, pour rencontrer les gens. Bon, il se présentait pas toujours comme prêtre, de toute façon il se présentait parfois comme espion anglais, parfois comme alsacien, enfin il avait une infinité de personnalités, d'identités et de noms différents. Il était prêtre indépendant, mais il était très indépendant et pas beaucoup prêtre.
Il a une double vie, c'est quelqu'un qui est une duplicité totale et qui a vendu ses services à la Gestapo, laquelle Gestapo l'a elle-même orienté vers l'Abwehr. Et c'est de là qu'il reçoit des fameuses sommes d'argent qui lui permettent d'acheter. Il est infiltré dans les mouvements de résistants et il va poursuivre son infiltration tant qu'il est actif.
Lorraine Demeaux, vous êtes historienne. Pendant le procès, on découvre le système financier qui consistait pour Alèche à avoir négocié un salaire avec des primes pour chaque délation, mais avoir aussi soutiré de l'argent à la résistance, soi-disant pour faire libérer des prisonniers. Donc il y a un système financier assez complexe.
Le système financier dont bénéficie Alèche, c'est à la fois, d'ailleurs, qui révèle sa vénalité, en fait. C'est un système qui repose sur le fait que les renseignements allemands, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, militaires ou ceux de la SS, hein, parce qu'il y a eu des connexions, c'est vrai que c'est un univers complexe, la réalité de l'occupation en France, et que cet univers allemand s'accompagne d'une possibilité de financer les traîtres. Et il ne sera pas le seul traître à avoir trahi le réseau du Musée de l'Homme. Hein. Il y a aussi Gaveau, qui était un infiltré, qui lui aussi a perçu de l'argent de la part des nazis, enfin des services nazis. Donc, réalité de cette présence de l'occupant et de ses capacités à financer les infiltrés, ceux qui vont travailler pour lui. Et puis, de l'autre côté, aussi l'argent dont les résistants peuvent aussi avoir entre les mains, avec les versements et les livraisons d'argent venant de Londres, et qui font qu'ils sont en capacité de pouvoir payer notamment des armes. Alèche pouvait jouer sur les deux tableaux vis-à-vis de ceux qui l'employaient, et puis vis-à-vis de ceux qu'il trompait en se faisant passer pour un des leurs.
Au final, autour de 25 000 francs par mois, si on prend les primes et les salaires qu'il a pu toucher de part et d'autre. C'est une somme considérable à l'époque.
C'est considérable. Voilà, il tirait d'importants bénéfices de cette situation. L'écart entre la réalité du traître et la réalité de la résistance est tel. Ce qui les oppose concrètement, c'est vraiment justement une certaine moralité. Les résistants sont engagés pour une idée morale, pour leur patrie, mais aussi contre le nazisme. Et c'est ce traître, Alèche, est finalement mu que par la vénalité, la possibilité de s'enrichir, une forme d'hubris sans doute.
Enfin, il a été arrêté particulier parce que qu'on a perquisitionné l'appartement de la rue Spontini et qu'on y a trouvé des manteaux de fourrure et de l'argenterie de Madame Guérin, qui était une tenancière de bordel à Lyon, qui hébergeait Allèche quand il allait à Lyon, qui l'a dénoncé, qui a été déporté, mais qui est revenu et qui a porté plainte parce que ses biens meubles avaient disparu. Et ces biens meubles avaient été déclarés comme volés et ont été retrouvés rue Spontini. Donc c'est en 45 à peu près, une fois que Madame Guérin était revenue de déportation. Donc c'est comme ça qu'il a été arrêté. Et donc cet appartement était richement meublé avec des œuvres d'art, avec du beau mobilier, avec plusieurs services d'argenterie, etc. Et donc effectivement une très grande opulence. Et donc le système d'Alèche, il était magnifique puisque non seulement il se faisait payer par les Allemands pour chaque non livré, il se faisait financer ses recherches, etc. Mais en plus il demandait aux résistants de financer des opérations fictives. Et donc, c'est comme ça qu'il a, pour l'affaire de Vaumécourt, il a extorqué des sommes considérables à la résistance pour soudoyer le prétendu gardien allemand qui n'existait pas. Et donc, cet argent, il était donné par la résistance à Allèche qui était censé le transmettre au gardien allemand qui, en fait, le gardait pour lui.
Est-ce que vous pouvez nous lire quelques extraits de la manière dont vous faites parler Robert Allèche dans l'archevêque de Cologne ?
Alors, après avoir dénoncé Madame Guérin, qui était tenancière de principal bordel de Lyon, Madame Guérin est prise et déportée. Et Allèche convainc le concierge de l'immeuble de s'occuper de ses affaires, de s'occuper de l'appartement et de ranger l'appartement. Et en fait, j'imagine qu'il organise des fêtes pour lui tout seul dans son appartement. Je pris possession de l'appartement sous la bénédiction universelle de gens qui voyaient en moi un sauveur. Je passais là quelques soirées solitaires, étranges. Je dressais une belle table dans la grande salle à manger. Je déposais sur les chaises des manteaux de fourrure. Le dîner terminé, je disposais les chaises et les fauteuils contre les murs du salon. J'y installais les manteaux et nous avions une soirée dansante. Il y avait un phono et quelques disques, des valses et des tangos. J'invitais un manteau à danser tandis que les autres faisaient tapisserie. Et puis à la fin, je dansais tout seul devant le grand miroir au-dessus de la cheminée. Je dansais le swing ou le foxtrot. Je chantais avec force l'air de Marguerite. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ton cœur. Dans cet appartement sombre, aux volets fermés qui commençaient à prendre la poussière, ces soirées spéciales faisaient battre mon cœur. Il n'y avait rien de plus rare. J'étais à la fois l'hôte et l'invité unique.
Beaucoup de choses dans ce personnage qui en font un personnage romanesque, Emmanuel Béguet. Non seulement c'est un prêtre immoral, mais il a, d'une certaine manière, il a tous les vices.
Oui, il a tous les vices, mais c'est pas bel ami, si vous voulez. C'est pas quelqu'un qui est froidement ambitieux. Il est très ambitieux et très froid, mais il est convaincu à chaque instant de sa bonne foi. Je pense qu'il est convaincu à chaque instant de sa bonne foi et c'est ça qui le rend incroyable, parce que comment est-ce qu'il n'a pas de recul? Mais il n'y a aucun indice qu'à un moment il ait eu assez de recul pour se dire que quand même peut-être ce qu'il avait fait n'était pas la bonne solution. C'est ça, c'est-à-dire qu'il ment tout le temps à tout le monde et en particulier à lui-même. Qu'est-ce que j'ai dit à un moment? Voilà. Je note, je prenais des notes sur ses dépositions, et à un moment, moi, j'ai mis. Donc, je regardais les papiers qui sont tapés à la machine, et je les retapais pour les exploiter. Et à un moment, moi, j'ai écrit moi-même pause, je n'en peux plus des bobards d'Alèche. Donc, je dis. C'est un moment, c'est insupportable. Ce qu'il dit, toujours n'importe quoi. N'importe quoi. Dans ses dépositions, tapées à la machine, signées par lui, il dit n'importe quoi. Tout le temps. C'est quelqu'un qui dit n'importe quoi tout le temps, à tout le monde, et qui arrive comme ça à se convaincre qu'il va devenir évêque de Cologne, qui sert les Allemands tout en faisant de la résistance, qu'il aide les gens qu'il dénonce. Voilà, c'est quelqu'un qui perd, qui à force de mensonges, perd contact avec la réalité. c'est le genre de personnage qui fleurit dans le chaos. Donc la guerre, c'est le chaos, c'est le monde à l'envers. Plus personne ne sait qui est qui. Les uns sont résistants, les autres sont collabos, les autres sont neutres, mais personne ne sait trop. On peut raconter n'importe quoi. Tout est bouleversé, les administrations sont bouleversées, donc les vérifications sont impossibles. Donc ça crée un milieu extrêmement propice à ce genre de personnage où on peut s'inventer des histoires qui sont invérifiables et dans une situation tellement difficile que tout le monde a envie de croire aussi aux histoires qu'on raconte. Donc il est certain que l'occasion de la guerre a permis à Alèche d'exister.
J'ai été livrée par un traître d'abord, et qui était également un prêtre, agent de la Gestapo à Poitiers. Et ça, nous l'avons su, on l'a su au moment de son procès, parce que son chef de l'Abwehr est venu déposer à son procès. Soi-disant comme témoin à décharge, il est venu. Alors le président lui a dit, vous êtes bien le capitaine Schaeffer, je crois Schaeffer, il me semble, de l'Abwehr. Il a dit oui. Et vous connaissez l'accusé? Oh oui, il était sous mes ordres. Et vous étiez content de ses services? Très content de ses services.
Lorraine de Meaux, en mai 1948, a lieu le procès de Robert Alèche. Et là, on découvre tout un système qui est basé, alors au départ, sur la cupidité. Il a des maîtresses, Alèche, qu'il entretient à Paris dans une garçonnière du 16e arrondissement, rue Spontini. Mais il y a aussi une trahison que Germaine Tillion estime sadique de sa part, hein, une facette sadique du personnage.
Oui, Germaine Tillion a beaucoup réfléchi à cette cruauté qui va avec la trahison chez quelqu'un comme Alèche. Il est non seulement vénal, ce qui lui permet de vivre confortablement, de mener grand train à Paris, d'avoir à la fois ses maîtresses et cette vie de plaisir, mais aussi il y a cette jouissance qu'il a d'envoyer à la mort ou d'envoyer à l'emprisonnement et à la déportation ceux auxquels il faisait croire qu'il était l'un des leurs. Et puis elle a aussi décrit le sourire d'Alèche à ce moment-là. Elle a dit par la suite que elle avait retrouvé ce même sourire sur le visage du commandant Schwarzhuber de Ravensbrück au moment où il sélectionnait pour des déportés, pour les envoyer à la mort, par le gaz. Voilà, c'est ce qu'elle a décrit comme des phénomènes qui l'ont marqué vraiment à vie.
Il ne se contentait pas de livrer des vraies résistances qui auraient encore pu se justifier, mais il a inventé des résistances. C'est-à-dire qu'il a créé des gens, des jeunes gens qui venaient le voir à la sortie de sa messe en l'ayant entendu prêcher contre l'Allemagne nazie, qui leur dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et il les a il leur a créé une espèce de fausse résistance. Il leur a dit d'aller surveiller, d'aller compter les Allemands au coin de la rue. Et au bout de quelques mois, ces gens étaient persuadés d'être résistants alors qu'ils ne faisaient rien, et ils les vendaient aux Allemands.
Il a fait semblant de les recruter, en fait.
Il a fait semblant de les recruter pour en faire des faux résistants, pour les vendre aux Allemands. Donc, il trompe aussi les Allemands. Il trompe les résistants en leur faisant croire qu'il est de leur côté et en les vendant aux Allemands, mais il trompe aussi les Allemands en leur vendant à prix fort des gens qui n'ont aucune valeur. Donc, c'est lui qui est toujours au contrôle, et s'il arrive à tromper les Allemands qui sont les plus forts, alors lui, il est plus fort que les plus forts. Donc, et il n'avait pas de boussole morale. Donc, et lui, ce qu'il voulait, c'était de l'argent et de la considération tout de suite. Et le reste, ça lui était égal. Il n'a jamais montré la moindre empathie pour ses victimes. Donc, il a un profil de psychopathe. Il considère que les autres sont là pour le servir. Lui, qui est quelqu'un de très important et qui est dans une situation injuste parce que le monde ne reconnaît pas sa valeur. Il peut pas, c'est insupportable pour lui d'être vicaire auxiliaire à la Varenne. La Varenne, c'est rien, et vicaire, c'est pas grand chose, et vicaire auxiliaire, c'est rien non plus. Donc, c'est insupportable.
Robert Alèche est exécuté le 25 janvier 1949. Lui, sa grande ambition, c'était de devenir évêque de Cologne. Donc il avait des ambitions aussi ecclésiastiques. Il est exécuté au fort de Montrouge et finalement, il laisse une empreinte très forte chez Germaine Tillion qui continue à parler de lui longtemps après, même dans ses lettres. Lorraine Demont.
Alors oui, là, il y a une lettre qui est un inédit hein, de Germaine Tillion qu'elle a adressée à un de ses amis, un ambassadeur qui s'appelle Robert Hals et qui est luxembourgeois, comme l'abbé Allèche. Allèche était effectivement d'origine luxembourgeoise et effectivement prêtre du diocèse de Paris. C'était à coup sûr un pervers, mais pas du tout un fou. Il appartenait à une famille honorable, était très attaché à ses parents, n'avait pas souffert dans son enfance, était apparemment en excellente santé. L'amour de l'argent et de la puissance qu'il procure l'a poussé certainement à se conduire comme il l'a fait, et en outre, il y prenait plaisir. Voilà, c'est une lettre de novembre 1972. Et elle revient sur cette figure, le visage même, l'incarnation même de la duplicité et du mal.
Votre roman s'appelle L'archevêque de Cologne. C'était là son ambition aussi, d'avoir une grande carrière au sein du clergé, Emmanuel Béguet ?
Oui, oui, alors ça, absolument. Et c'était ça, la respectabilité, c'était pas seulement d'être un agent de l'abwehr, c'était effectivement de commencer par être nommé à la mission Saint-Joseph à Paris, qui était une mission allemande, ce qu'il n'obtiendra jamais, et ensuite de là, de devenir évêque de Cologne. Personne ne l'a jamais pris au sérieux sur ce sujet, mais lui, effectivement, il se voyait archevêque, oui.
Donc ça veut dire que l'adhésion, pour le coup, à la doctrine religieuse était sincère, d'une certaine manière ?
Alors, ça, c'est la grande question. Comment est-ce qu'il peut arriver à faire ce qu'il a fait et à continuer à croire en Dieu ? On sait qu'il a fait des démarches constantes à Fresnes pour pouvoir dire sa messe, ce qu'il pouvait pas faire. On sait qu'il a communié le matin de son exécution. Donc, il semblait être un chrétien sincère, un catholique sincère. Alors, comment est-ce qu'il conciliait ça avec ses activités ? Et il a aussi dit quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'il a refusé de parler à son procès parce que je pense que... Pendant l'instruction, il mentait tout le temps et ses mensonges ont été découverts. Le charme était tombé, il n'arrivait plus du tout à convaincre parce qu'il parlait toujours devant les mêmes interlocuteurs qui prenaient des notes et qui recoupaient ses informations. Donc tout son système de mensonges permanents et d'embrouilles ne fonctionnait plus. Donc pendant son procès, il n'a plus ouvert la bouche. Mais à la fin de son procès, il a quand même prononcé cette phrase. Il a dit « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par charité ». Voilà, ce sont ses dernières paroles.
L'abbé Robert Allèche, le salaire du prêcheur.
Robert Nicolas Allèche, fils de Jean et Catherine Wilhelm, condamné le 27 mai, exécuté le 25 janvier 48 à 8h55. Il n'y a eu aucun incident, dit le commissaire du gouvernement Langlois, le 26 janvier.
Deuxième épisode, la part du diable.
Le procès verbal d'exécution. Avons été prévenus qu'une exécution capitale devait avoir lieu ce jour au fort de Montrouge. Nous transportons aux prisons de Fresnes où nous trouvons sur place M. Sulaka.
Un documentaire de Maïlys Bessery et Yvon Croisier, avec Emmanuel Béguet, Lorraine Demont, Michel Gluteau, Aurélien Prévost et des archives de Germaine
Tillion. M. Popo, aumônier des prisons, M. Paul, médecin légiste.
Une histoire particulière, coordination Emmanuel Laurentin. Chargé de programme, Sandrine Chaperon.
Éveillé à 7h25, le condamné a été avisé que son recours en grâce avait été rejeté et que l'arrêt qui le condamnait allait recevoir exécution. Il a demandé le ministère de l'aumônier de la prison et après s'être entretenu avec lui, il a communié, puis sur sa demande, il a été autorisé à écrire. Le condamné a quitté les prisons à 8h35 par fourgon cellulaire pour son transport au fort de Montrouge. Il était fusillé à 8h55 par le peloton d'exécution. Thank you.